Consuelo, livre 1, chapitre 12. La dissertation musicale se prolongea jusque dans le salon du palais Giustiniani, où l'on rentra vers minuit pour prendre le chocolat et les sorbets. Du technique de l'art, on était passé au style, aux idées, aux formes anciennes et modernes, enfin à l'expression, et de là aux artistes et à leurs différentes manières de sentir et d'exprimer. Le Porpora parlait avec admiration de son maître Scarlatti, le premier qui eut imprimé un caractère pathétique aux compositions religieuses. Mais il s'arrêtait là, et ne voulait pas que la musique sacrée empiétât sur le domaine du profane en se permettant les ornements, les traits et les roulades. « Est-ce donc, lui dit Anzoletto, que votre seigneurie réprouve ces traits et ces ornements difficiles qui ont cependant fait le succès et la célébrité de son illustre élève Farinelli ?» Je ne les réprouve qu'à l'église, répondit le maestro. Je les approuve au théâtre, mais je les veux à leur place, et surtout j'en proscris l'abus. Je les veux d'un goût pur, sobre, ingénieux, élégant, et dans leur modulation, appropriée non seulement au sujet qu'on traite, mais encore au personnage qu'on représente, à la passion qu'on exprime, et à la situation où se trouve le personnage. Les nymphes et les bergères peuvent roucouler comme les oiseaux, ou cadencer leurs accents comme le murmure des fontaines. Mais Médée ou Didon ne peuvent que sangloter ou rugir comme la lionne blessée. La coquette peut charger d'ornements capricieux et rechercher ses folles cavatines. La corilla excelle en ce genre. Mais qu'elle veuille exprimer les émotions profondes, les grandes passions, elle reste au-dessous de son rôle. Et c'est en vain qu'elle s'agite, c'est en vain qu'elle gonfle sa voix et son sein. Un trait déplacé, une roulade absurde viennent changer en un instant, en ridicule parodie, ce sublime qu'elle croyait atteindre. Vous avez tous entendu la Faustine à Pordoni, aujourd'hui Madame Haas. En de certains rôles appropriés à ses qualités brillantes, elle n'avait point de rival. Mais que la Cuzzoni vint, avec son sentiment pur et profond, faire parler la douleur, la prière ou la tendresse, les larmes qu'elle vous arrachait effaçaient en un instant de vos cœurs le souvenir de toutes les merveilles que la Faustina avait prodiguées à vos sens. C'est qu'il y a le talent de la matière et le génie de l'âme. Il y a ce qui amuse et ce qui émeut, ce qui étonne et ce qui ravit. Je sais fort bien que les tours de force sont en faveur, mais quant à moi, si je les ai enseignés à mes élèves comme des accessoires utiles, je suis presque à m'en repentir lorsque je vois la plupart d'entre eux en abuser et sacrifier le nécessaire au superflu. L'attendrissement durable de l'auditoire, aux cris de surprise et aux trépignements d'un plaisir fiévreux et passager. Personne ne combattait cette conclusion éternellement vraie dans tous les arts, et qui sera toujours appliquée à leurs diverses manifestations par les âmes élevées. Cependant, le comte, qui était curieux de savoir comment Consuelo chanterait la musique profane, feignit de contredire un peu l'austérité des principes du Porpora. Mais, voyant que la modeste fille, au lieu de réfuter ses hérésies, tournait toujours ses yeux vers son vieux maître, comme pour lui demander de répondre victorieusement, il prit le parti de s'attaquer directement à elle-même, et de lui demander si elle entendait chanter sur la scène avec autant de sagesse et de pureté qu'à l'église. « Je ne crois pas, répondit-elle avec une humilité sincère, que j'y trouve les mêmes inspirations, et je crains d'y valoir beaucoup moins. » « Cette réponse modeste et spirituelle me rassure, dit le comte. Je suis certain que vous vous inspirerez assez de la présence d'un public ardent, curieux, un peu gâté, je l'avoue, pour condescendre à étudier ces difficultés brillantes dont chaque jour il se montre plus avide. Étudier ? Dit le Porpora avec un sourire plein de finesse. Étudier ? S'écria Anzoletto avec un dédain superbe. Oui, sans doute, étudier, reprit Consuelo avec sa douceur accoutumée. Quoique je me sois exercé quelquefois à ce genre de travail, je ne pense pas encore être capable de rivaliser avec les illustres chanteuses qui ont paru sur notre scène. Tu mens ! S'écria Anzoletto tout animé. Monseigneur, elle ment. Faites-lui chanter les airs les plus ornés et les plus difficiles du répertoire. Vous verrez ce qu'elle sait faire. Si je ne craignais pas qu'elle fût fatiguée, dit le comte, dont les yeux pétillaient déjà d'impatience et de désir. Consuelo tourna les siens naïvement vers le Porpora, comme pour prendre ses ordres. Au fait, dit celui-ci, comme elle ne se fatigue pas pour si peu, et comme nous sommes ici en petite et excellente compagnie, on pourrait examiner son talent sur toutes les faces. Voyons, seigneur comte, choisissez un air et accompagnez-la vous-même au clavecin. L'émotion que sa voix et sa présence me causent, répondit Giustiniani, me ferait faire de fausses notes. Pourquoi pas vous, mon maître ? Je voudrais la regarder chanter, dit le Porpora. Car entre nous soit dit, je l'ai toujours entendue sans jamais songer à la voir. Il faut que je sache comment elle se tient, ce qu'elle fait de sa bouche et de ses yeux. Allons, lève-toi, ma fille. C'est pour moi aussi que l'épreuve va être tentée. Ce sera donc moi qui l'accompagnerai, dit Anzoletto en s'asseyant au clavecin. Vous allez m'intimider trop, mon maître, dit Consuelo à Porpora. « La timidité n'appartient qu'à la sottise, » répondit le maître. « Quiconque se sent pénétré d'un amour vrai pour son art ne peut rien craindre. Si tu trembles, tu n'as que de la vanité. Si tu perds tes moyens, tu n'en as que de factice. Et s'il en est ainsi, je suis là pour dire tout le premier, la Consuelo n'est bonne à rien. » Et sans s'inquiéter de l'effet désastreux que pouvaient produire des encouragements aussi tendres, le professeur mit ses lunettes, arrangea sa chaise bien en face de son élève et commença à battre la mesure sur la queue du clavecin pour donner le vrai mouvement à la ritournelle. On avait choisi un air brillant, bizarre et difficile, tiré d'un opéra bouffe de Galuppi, la Diavolessa, afin de prendre tout à coup le genre le plus différent de celui où Consuelo avait triomphé le matin. La jeune fille avait une si prodigieuse facilité qu'elle était arrivée, presque sans étude, à faire, en se jouant, tous les tours de force alors connus, à sa voix souple et puissante. Le Porpora lui avait recommandé de faire ses exercices, et, de temps en temps, les lui avait fait répéter pour s'assurer qu'elle ne les négligeait pas. Mais il n'y avait jamais donné assez de temps et d'attention pour savoir ce dont l'étonnante élève était capable en ce genre. Pour se venger de la rudesse qu'il venait de lui montrer, Consuelo eut l'espièglerie de surcharger l'air extravagant de la diavolessa d'une multitude d'ornements et de traits regardés jusque-là comme impossibles, et qu'elle improvisa aussi tranquillement que si elle les eût notés et étudiés avec soin. Ces ornements furent si savants de modulation, d'un caractère si énergique, si infernal, et mêlés au milieu de leur plus impétueuse gaieté d'accents si lugubres, qu'un frisson de terreur vint traverser l'enthousiasme de l'auditoire, et que le Porpora, se levant tout à coup, s'écria avec force « C'est toi qui es le diable en personne !» Consuelo finit son air par un crescendo de force qui enleva les cris d'admiration, tandis qu'elle se rasseyait sur sa chaise en éclatant de rire. « Méchante fille !» dit le Porpora. « Tu m'as joué un tour pendable, tu t'es moqué de moi. Tu m'as caché la moitié de tes études et de tes ressources. Je n'avais plus rien à t'enseigner depuis longtemps, et tu prenais mes leçons par hypocrisie. » Peut-être pour me ravir tous les secrets de la composition et de l'enseignement, afin de me surpasser en toute chose et de me faire passer ensuite pour un vieux pédant. « Mon maître, répondit Consuelo, je n'ai pas fait autre chose qu'imiter votre malice envers l'empereur Charles. Ne m'avez-vous pas raconté cette aventure ? Comme quoi, sa majesté impériale n'aimait pas les trilles, et vous avez fait défense d'en introduire un seul dans votre oratorio. Et comme quoi, ayant scrupuleusement respecté sa défense jusqu'à la fin de l'œuvre, vous lui aviez donné un divertissement de bon goût à la fugue finale en la commençant par 4 trilles ascendantes, répétées ensuite à l'infini dans le stretto par toutes les parties. Vous avez fait ce soir le procès à l'abus des ornements, et puis vous m'avez ordonné d'en faire. J'en ai fait trop, afin de vous prouver que moi aussi je puis outrer un travers dont je veux bien me laisser accuser. « Je te dis que tu es le diable !» reprit le Porpora. « Maintenant, chante-nous quelque chose d'humain, et chante-le comme tu l'entendras, car je vois bien que je ne puis plus être ton maître. » « Vous serez toujours mon maître respecté et bien-aimé » s'écria-t-elle en se jetant à son cou et en le serrant à l'étouffer. « C'est à vous que je dois mon pain et mon instruction depuis 10 ans. Oh, mon maître, on dit que vous avez fait des ingrats. Que Dieu me retire à l'instant même l'amour et la voix, si je porte dans mon cœur le poison de l'orgueil et de l'ingratitude. » Le Porpora devint pâle, balbutia quelques mots et déposa un baiser paternel sur le front de son élève. Mais il y laissa une larme, et Consuelo, qui n'osa l'essuyer, sentit sécher lentement sur son front cette larme froide et douloureuse de la vieillesse abandonnée et du génie malheureux. Elle en ressentit une émotion profonde et comme une terreur religieuse qui éclipsa toute sa gaieté et éteignit toute sa verve pour le reste de la soirée. Une heure après, quand on eut épuisé autour d'elle et pour elle toutes les formules de l'admiration, de la surprise et du ravissement, sans pouvoir la distraire de sa mélancolie, on lui demanda un spécimen de son talent dramatique. Elle chanta un grand air de Jomelli dans l'opéra de Didon abandonné. Jamais elle n'avait mieux senti le besoin d'exhaler sa tristesse. Elle fut sublime de pathétique, de simplicité, de grandeur, et belle de visage plus encore qu'elle ne l'avait été à l'église. Son teint s'était animé d'un peu de fièvre, ses yeux lançaient de sombres éclairs. Ce n'était plus une sainte, c'était mieux encore, c'était une femme dévorée d'amour. Le comte, son ami Barberigo, Anzoletto, tous les auditeurs, et, je crois, le vieux Porpora lui-même, faillirent en perdre l'esprit. La Clorinda suffoqua de désespoir. Consuelo, à qui le comte déclara que dès le lendemain son engagement serait dressé et signé, le pria de lui promettre une grâce secondaire et de lui engager sa parole à la manière des anciens chevaliers, sans savoir de quoi il s'agissait. Il le fit, et l'on se sépara, brisé de cette émotion délicieuse que procurent les grandes choses et qu'imposent les grandes intelligences. Chapitre 13. Pendant que Consuelo avait remporté tous ses triomphes, Anzoletto avait vécu si complètement en elle qu'il s'était oublié lui-même. Cependant, lorsque le comte, en les congédiant, signifia l'engagement de sa fiancée sans lui dire un mot du sien, il remarqua la froideur avec laquelle il avait été traité par lui durant ces dernières heures, et la crainte d'être perdu sans retour dans son esprit empoisonna toute sa joie. Il lui vint dans la pensée de laisser Consuelo sur l'escalier, au bras du Porpora, et de courir se jeter aux pieds de son protecteur. Mais, comme en cet instant il le haïssait, il faut dire à sa louange qu'il résista à la tentation de s'aller humilier devant lui. Comme il prenait congé du Porpora et se disposait à courir le long du canal avec Consuelo, le gondolier du comte l'arrêta et lui dit que, par les ordres de son maître, la gondole attendait la signora Consuelo pour la reconduire. Une sueur froide lui vint au front. « La signora est habituée à cheminer sur ses jambes, » répondit-il avec violence. « Elle est fort obligée au comte de ses gracieusetés. » « De quel droit refusez-vous pour elle ?» dit le comte qui était sur ses talons. Anzoletto se retourna et le vit, non la tête nue comme un homme qui reconduit son monde, mais le manteau sur l'épaule, son épée dans une main et son chapeau dans l'autre, comme un homme qui va courir les aventures nocturnes. Anzoletto ressentit un tel accès de fureur qu'il eut la pensée de lui enfoncer entre les côtes ce couteau mince et affilé qu'un Vénitien, homme du peuple, cache toujours dans quelque poche invisible de son ajustement. « J'espère, madame, dit le comte à Consuelo d'un ton ferme, que vous ne me ferez pas l'affront de refuser ma gondole pour vous reconduire, et le chagrin de ne pas vous appuyer sur mon bras pour y entrer. » Consuelo, toujours confiante et ne devinant rien de ce qui se passait autour d'elle, accepta, remercia, et abandonnant son joli coude arrondi à la main du comte, elle sauta dans la gondole sans cérémonie. Alors un dialogue muet, mais énergique, s'établit entre le comte et Anzoletto. Le comte avait un pied sur la rive, un pied sur la barque, et de l'œil toisait Anzoletto, qui, debout sur la dernière marche du perron, le toisait aussi, mais d'un air farouche, la main cachée dans sa poitrine et serrant le manche de son couteau. Un mouvement de plus vers la barque, et le comte était perdu. Ce qu'il y eut de plus vénitien dans cette scène rapide et silencieuse, c'est que les deux rivaux s'observèrent sans hâter de part ni d'autre une catastrophe imminente. Le comte n'avait d'autre intention que celle de torturer son rival par une irrésolution apparente, et il le fit à loisir, quoiqu'il vit fort bien et comprit encore mieux le geste d'Anzoletto, prêt à le poignarder. De son côté, Anzoletto eut la force d'attendre, sans se trahir officiellement, qu'il plût au comte d'achever sa plaisanterie féroce, ou de renoncer à la vie. Ceci dura 2 minutes, qui lui semblèrent un siècle, et que le comte supporta avec un mépris stoïque. Après quoi, il fit une profonde révérence à Consuelo, et se tournant vers son protégé. « Je vous permets, lui dit-il, de monter aussi dans ma gondole. À l'avenir, vous saurez comment se conduit un galant homme. » Et il se recula pour faire passer Anzoletto dans sa barque. Puis il donna au gondolier l'ordre de ramer vers la Corte Minelli, et il resta debout sur la rive, immobile comme une statue. Il semblait attendre de pied ferme une nouvelle velléité de meurtre de la part de son rival humilié. « Comment donc le comte sait-il où tu demeures ?» fut le premier mot qu'Anzoletto adressa à son ami dès qu'ils eurent perdu de vue le palais Giustiniani. « Parce que je le lui ai dit, » repartit Consuelo. « Et pourquoi le lui as-tu dit ?»«
Parce qu'il me l'a demandé. »
« Tu ne devines donc pas du tout pourquoi il voulait le savoir ?»«
Apparemment pour me faire reconduire. »
« Tu crois que c'est là tout ? Tu crois qu'il ne viendra pas te voir ?»«
Venir me voir ? Quelle folie ! Dans une aussi misérable demeure, ce serait un excès de politesse de sa part que je ne désire pas du tout. »
« Tu fais bien de ne pas le désirer, Consuelo, car un excès de honte serait peut-être pour toi le résultat de cet excès d'honneur. »«
De la honte? Et pourquoi de la honte à moi? Vraiment, je ne comprends rien à tes discours ce soir, cher Anzoletto, et je te trouve singulier de me parler de choses que je n'entends point, au lieu de me dire la joie que tu éprouves du succès inespéré et incroyable de notre journée. »«
Inespéré, en effet. » répondit Anzoletto avec amertume.
Il me semblait qu'à Vêpres, et ce soir, pendant qu'on m'applaudissait, tu étais plus enivré que moi. Tu me regardais avec des yeux si passionnés, et je goûtais si bien mon bonheur en le voyant reflété sur ton visage. Mais depuis quelques instants, te voilà sombre et bizarre, comme tu l'es quelquefois, quand nous manquons de pain ou quand notre avenir paraît incertain et fâcheux. Et maintenant, tu veux que je me réjouisse de l'avenir ? Il est possible qu'il ne soit pas incertain, en effet, mais à coup sûr, il n'a rien de divertissant pour moi.
Que te faut-il donc de plus ? Il y a à peine 8 jours que tu as débuté chez le comte. Tu as eu un succès d'enthousiasme.
Mon succès auprès du comte est fort éclipsé par le tien, ma chère. Tu le sais, du reste.
J'espère bien que non. D'ailleurs, quand cela serait, nous ne pouvons pas être jaloux l'un de l'autre.
Cette parole ingénue, dite avec un accent de tendresse et de vérité irrésistible, fit rentrer le calme dans l'âme d'Anzoletto.
Oh, tu as raison, dit-il en serrant sa fiancée dans ses bras. Nous ne pouvons pas être jaloux l'un de l'autre, car nous ne pouvons pas nous tromper.
Mais en même temps qu'il prononça ces derniers mots, il se rappela avec remords son commencement d'aventure avec la Corilla, et il lui vint subitement dans l'idée que le comte, pour achever de l'en punir, ne manquerait pas de le dévoiler à Consuelo, le jour où il croirait ses espérances tant soit peu encouragées par elle. Il retomba dans une morne rêverie, et Consuelo devint pensive aussi.
« Pourquoi ?» lui dit-elle après un instant de silence. « Dis-tu que nous ne pouvons pas nous tromper ? À coup sûr, c'est une grande vérité, mais à quel propos cela t'est-il venu ?»«
Tiens, ne parlons plus dans cette gondole, » répondit Anzoletto à voix basse. « Je crains qu'on écoute nos paroles et qu'on ne les rapporte au comte. Cette couverture de soie et de velours est bien mince, et ces barcaroles de palais ont les oreilles 4 fois plus larges et plus profondes que nos barcaroles de place.
« Laisse-moi monter avec toi dans ta chambre, » lui dit-il, lorsqu'on les eut déposés sur la rive, à l'entrée de la Corte Minelli.
« Tu sais que c'est contraire à nos habitudes et à nos conventions, » lui répondit-elle.
« Oh, ne me refuse pas cela, » s'écria Anzoletto. « Tu me mettrais le désespoir et la fureur dans l'âme. »
Effrayé de son accent et de ses paroles, Consuelo n'osa refuser. Et quand elle eut allumé sa lampe et tiré ses rideaux, le voyant sombre et comme perdu dans ses pensées, elle entoura de ses bras le cou de son fiancé.
« Comme tu me parais malheureux et inquiet ce soir !» lui dit-elle tristement. « Que se passe-t-il donc en toi ?»«
Tu ne le sais pas, Consuelo. Tu ne t'en doutes pas. »«
Non, sur mon âme !»
« Jure-le que tu ne devines pas. Jure-le sur l'âme de ta mère et sur ton Christ que tu pries tous les matins et tous les soirs. »«
Oh, je te le jure, sur mon Christ et sur l'âme de ma mère. »«
Et sur notre amour ?»«
Sur notre amour et sur notre salut éternel. » »«
Je te crois, Consuelo, car ce serait la première fois de ta vie que tu ferais un mensonge. »«
Et maintenant, m'expliqueras-tu ?»«
Je ne t'expliquerai rien. » Peut-être faudra-t-il bientôt que je me fasse comprendre. Ah, quand ce moment sera venu, tu ne m'auras déjà que trop compris. Malheur, malheur à nous deux, le jour où tu sauras ce que je souffre maintenant.
Oh, mon Dieu, de quel affreux malheur sommes-nous donc menacés ? Hélas, c'est donc sous le coup de je ne sais quelle malédiction que nous devions rentrer dans cette pauvre chambre où nous n'avions eu jusqu'à présent aucun secret l'un pour l'autre. Quelque chose me disait bien, quand je suis sortie ce matin, que j'y rentrerais la mort dans l'âme. Qu'ai-je donc fait pour ne pas jouir d'un jour qui semblait si beau? N'ai-je pas prié Dieu ardemment et sincèrement? N'ai-je pas éloigné de moi toute pensée d'orgueil? N'ai-je pas chanté le mieux qu'il m'a été possible? N'ai-je pas souffert de l'humiliation de la Clorinda? N'ai-je pas obtenu du comte, sans qu'il s'en doutât et sans qu'il puisse se dédire, la promesse qu'elle serait engagée comme seconda donna avec nous? Qu'ai-je donc fait de mal, encore une fois, pour souffrir les douleurs que tu m'annonces et que je ressens déjà, puisque toi, tu les éprouves?
En vérité, Consuelo, tu as eu la pensée de faire engager la Clorinda?
J'y suis résolue, si le comte est un homme de parole. Cette pauvre fille a toujours rêvé le théâtre. Elle n'a pas d'autre existence devant elle.
Et tu crois que le comte renverra la Rosalba, qui sait quelque chose pour la Clorinda, qui ne sait rien?
La Rosalba suivra la fortune de sa sœur Corilla,
Et quant à la Clorinda, nous lui donnerons des leçons. Nous lui apprendrons à tirer le meilleur parti de sa voix, qui est jolie. Le public sera indulgent pour une aussi belle fille. D'ailleurs, quand même je n'obtiendrai son admission que comme troisième femme, ce serait toujours une admission, un début dans la carrière, un commencement d'existence.
Tu es une sainte, Consuelo. Tu ne vois pas que cette pécore, en acceptant tes bienfaits, et quoiqu'elle dût s'estimer trop heureuse d'être troisième ou quatrième femme, ne te pardonnera jamais d'être la première.
Qu'importe son ingratitude ? Va, j'en sais long déjà sur l'ingratitude et les ingrats.
Toi ? Dit Anzoletto en éclatant de rire et en l'embrassant avec son ancienne effusion de frère.
Oui,
répondit-elle, enchantée de l'avoir distrait de ses soucis.
J'ai eu jusqu'à présent toujours devant les yeux, et j'aurai toujours gravé dans l'âme l'image de mon noble maître Porpora. Il lui est échappé bien souvent devant moi des paroles amères et profondes qu'il me croyait incapable de comprendre, mais elles creusaient bien avant dans mon cœur, et elles n'en sortiront jamais. C'est un homme qui a bien souffert, et que le chagrin dévore. Par lui, par sa tristesse, par ses indignations concentrées, par les discours qui lui ont échappé devant moi, il m'a appris que les artistes sont plus dangereux et plus méchants que tu ne penses, mon cher ange. Que le public est léger, oublieux, cruel, injuste. Qu'une grande carrière est une croix lourde à porter, et la gloire une couronne d'épines. Oui, je sais tout cela. Et j'y ai pensé si souvent, et j'ai tant réfléchi là-dessus, que je me sens assez forte pour ne pas m'étonner beaucoup et pour ne pas trop me laisser abattre quand j'en ferai l'expérience par moi-même. Voilà pourquoi tu ne m'as pas vue trop enivrée aujourd'hui de mon triomphe. Voilà pourquoi aussi je ne suis pas découragée en ce moment de tes noires pensées. Je ne les comprends pas encore, mais je sais qu'avec toi, et pourvu que tu m'aimes, je pourrai lutter avec assez de force pour ne pas tomber dans la haine du genre humain, comme mon pauvre maître, qui est un noble vieillard et un enfant malheureux. »
En écoutant parler son ami, Anzoletto reprit aussi son courage et sa sérénité. Elle exerçait sur lui une grande puissance, et chaque jour il découvrait en elle une fermeté de caractère et une droiture d'intention qui suppléait à tout ce qui lui manquait à lui-même. Les terreurs que la jalousie lui avait inspirées s'effacèrent donc de son souvenir au bout d'un quart d'heure d'entretien avec elle. Et quand elle le questionna de nouveau, il eut tellement honte d'avoir soupçonné un être si pur et si calme qu'il donna d'autres motifs à son agitation.
« Je n'ai qu'une crainte, lui dit-il. C'est que le comte ne te trouve tellement supérieur à moi qu'il ne me juge indigne de paraître à côté de toi devant le public. Il ne m'a pas fait chanter ce soir, quoique je m'attendisse à ce qu'il nous demanderait un duo. Il semblait avoir oublié jusqu'à mon existence. Il ne s'est même pas aperçu qu'en t'accompagnant, je touchais assez joliment le clavecin. Enfin, lorsqu'il t'a signifié ton engagement, il ne m'a pas dit un mot du mien. Comment n'as-tu pas remarqué une chose aussi étrange ?
La pensée ne m'est pas venue qu'il lui fût possible de vouloir m'engager sans toi. Est-ce qu'il ne sait pas que rien ne pourrait m'y décider, que nous sommes fiancés, que nous nous aimons ? Est-ce que tu ne le lui as pas dit bien positivement ?
Je lui ai dit, mais peut-être croit-il que je me vante, Consuelo.
En ce cas, je me vanterai moi-même de mon amour, Anzoletto. Je lui dirai tout cela si bien qu'il n'en doutera pas.
Mais tu t'abuses, mon ami. Le comte n'a pas jugé nécessaire de te parler de ton engagement, parce que c'est une chose arrêtée, conclue, depuis le jour où tu as chanté chez lui avec tant de succès.
Mais non signé, et le tien sera signé demain, il te l'a dit.
Crois-tu que je signerai la première ? Oh non, pas. Tu as bien fait de me mettre sur mes gardes. Mon nom ne sera écrit qu'au bas du tien.
Tu me le jures ?
« Oh, fille, vas-tu encore me faire faire des serments pour une chose que tu sais si bien ? Vraiment, tu ne m'aimes pas ce soir, ou tu veux me faire souffrir, car tu fais semblant de croire que je ne t'aime point. » À cette pensée, les yeux de Consuelo se gonflèrent, et elle s'assit avec un petit air boudeur qui la rendit charmante. « Au fait, je suis un fou, un sot !» pensa Anzoletto. « Comment ai-je pu penser un instant que le comte triompherait d'une âme si pure et d'un amour si complet ? Est-ce qu'il n'est pas assez expérimenté pour voir du premier coup d'œil que Consuelo n'est pas son fait ? Et aurait-il été assez généreux ce soir pour me faire monter dans la gondole à sa place s'il n'eût connu pertinemment qu'il y jouerait auprès d'elle le rôle d'un fat ridicule ? Non, non, mon sort est assuré, ma position inexpugnable. Que Consuelo lui plaise, qu'il l'aime, qu'il la courtise, tout cela ne servira qu'à avancer ma fortune. Car elle saura bien obtenir de lui tout ce qu'elle voudra sans s'exposer. Consuelo en saura vite plus que moi sur ce chapitre. Elle est forte, elle est prudente. Les prétentions du cher comte tourneront à mon profit et à ma gloire. » Et, abjurant complètement tous ses doutes, il se jeta aux pieds de son ami et se livra à l'enthousiasme passionné qu'il éprouvait pour la première fois, et que depuis quelques heures, la jalousie comprimait en lui. « Oh, ma belle, oh, ma sainte, oh, ma diablesse, oh, ma reine !» s'écria-t-il. « Pardonne-moi d'avoir pensé à moi-même, au lieu de me prosterner devant toi pour t'adorer, ainsi que j'aurais dû le faire en me retrouvant seule avec toi dans cette chambre. J'en suis sortie ce matin en te querellant. Oui, oui, je devrais n'y être rentrée qu'en me traînant sur mes genoux. Comment peux-tu aimer encore et sourire à une brute telle que moi ? Casse-moi ton éventail sur la figure, Consuelo. Mets ton joli pied sur ma tête. Tu es plus grande que moi de 100 coudées, et je suis ton esclave pour jamais à partir d'aujourd'hui. » « Je ne mérite pas ces belles paroles !» lui répondit-elle en s'abandonnant à ses étreintes. « Et quant à tes distractions, je les excuse, car je les comprends. Je vois bien que la peur d'être séparée de moi et de voir diviser une vie qui ne peut être qu'une pour nous deux t'a seule inspiré ce chagrin et ces doutes. Tu as manqué de foi envers Dieu. C'est bien plus mal que si tu m'avais accusée de quelque lâcheté. Mais je prierai pour toi. Et je dirai, Seigneur, pardonnez-lui comme je lui pardonne. » En exprimant son amour avec abandon, simplicité, et en y mêlant, comme toujours, cette dévotion espagnole pleine de tendresse humaine et de compromis ingénus, Consuelo était si belle. La fatigue et les émotions de la journée avaient répandu sur elle une langueur si suave qu'Anzoletto, exaltée d'ailleurs par cette espèce d'apothéose dont elle sortait et qui la lui montrait sous une face nouvelle, ressentit enfin tous les délires d'une passion violente pour cette petite sœur jusque-là si paisiblement aimée. Il était de ces hommes qui ne s'enthousiasment que pour ce qui est applaudi, convoité et disputé par les autres. La joie de sentir en sa possession l'objet de tant de désirs qu'il avait vu s'allumer et bouillonner autour d'elle éveilla en lui des désirs irréfrénables. Et pour la première fois, Consuelo fut réellement en péril entre ses bras. « Sois mon amante, sois ma femme » s'écria-t-il enfin d'une voix étouffée. « Sois à moi tout entière et pour toujours. » « Quand tu voudras !» lui répondit Consuelo avec un sourire angélique. « Demain, si tu veux. »« Demain? Et pourquoi demain ?»« Tu as raison, il est plus de minuit. C'est aujourd'hui que nous pouvons nous marier. Dès que le jour sera levé, nous pouvons aller trouver le prêtre. Nous n'avons de parents ni l'un ni l'autre. La cérémonie ne demandera pas de longs préparatifs. J'ai ma robe d'indienne que je n'ai pas encore mise. Tiens, mon ami, en la faisant, je me disais, je n'aurai plus d'argent pour acheter ma robe de noces, et si mon ami se décidait à m'épouser un de ces jours, je serais forcée de porter à l'église la même qui aurait déjà été étrennée. Cela porte malheur à ce qu'on dit. Aussi, quand ma mère est venue en rêve me la retirer pour la remettre dans l'armoire, elle savait bien ce qu'elle faisait, la pauvre âme. Ainsi donc, tout est prêt. « Demain, au lever du soleil, nous nous jurerons fidélité. Tu attendais pour cela, méchant, d'être sûr que je n'étais pas laide. Oh, Consuelo, s'écria Anzoletto avec angoisse. Tu es un enfant, un véritable enfant. Nous ne pouvons nous marier ainsi du jour au lendemain sans qu'on le sache, car le comte et le porpora, dont la protection nous est encore si nécessaire, seraient fort irrités contre nous si nous prenions cette détermination sans les consulter, sans même les avertir. Ton vieux maître ne m'aime pas trop, et le comte, je le sais de bonne part, n'aime pas les cantatrices mariées. Il faudra donc que nous gagnions du temps pour les amener à consentir à notre mariage. Ou bien il faut au moins quelques jours, si nous nous marions en secret, pour préparer mystérieusement cette affaire délicate. Nous ne pouvons pas courir à San Samuel, où tout le monde nous connaît, et où il ne faudra que la présence d'une vieille bonne femme pour que toute la paroisse en soit avertie au bout d'une heure.
« Je n'avais pas songé à tout cela, » dit Consuelo.
« Eh bien, de quoi me parlais-tu donc tout à l'heure ? Pourquoi, méchant, me disais-tu « Sois ma femme », puisque tu savais que cela n'était pas encore possible ?
Ce n'est pas moi qui t'en ai parlé la première, Anzoletto. Quoique j'ai pensé bien souvent que nous étions en âge de nous marier et que je n'eusse jamais songé aux obstacles dont tu parles, je m'étais fait un devoir de laisser cette décision à ta prudence. Et, faut-il te le dire, à ton inspiration. Car je voyais bien que tu n'étais pas trop pressé de m'appeler ta femme, et je ne t'en voulais pas. Tu m'as souvent dit qu'avant de s'établir, il fallait t'assurer le sort de sa future famille en s'assurant soi-même de quelques ressources. Ma mère le disait aussi, et je trouve cela raisonnable. Ainsi, tout bien considéré, ce serait encore trop tôt. Il faut que notre engagement à tous deux avec le théâtre soit signé, n'est-ce pas ? Il faut même que la faveur du public nous soit assurée. Nous reparlerons de cela après nos débuts.
Pourquoi pâlis-tu ? Oh, mon Dieu, pourquoi serres-tu ainsi les poings, Anzoletto ? Ne sommes-nous pas bien heureux ? Avons-nous besoin d'être liés par un serment pour nous aimer et compter l'un sur l'autre ?
Oh, Consuelo, que tu es calme, que tu es pure et que tu es froide ! S'écria Anzoletto avec une sorte de rage.
Moi ? Je suis froide ? S'écria la jeune Espagnole stupéfaite et vermeille d'indignation.
Hélas, je t'aime comme on peut aimer une femme, et tu m'écoutes et tu me réponds comme un enfant. Tu ne connais que l'amitié, tu ne comprends pas l'amour. Je souffre, je brûle, je meurs à tes pieds, et tu me parles de prêtres, de robes et de théâtre.
Consuelo, qui s'était levée avec impétuosité, se rassit, confuse et toute tremblante. Elle garda longtemps le silence. Et lorsqu'Anzoletto voulut lui arracher de nouvelles caresses, elle le repoussa doucement. « Écoute, lui dit-elle, il faut s'expliquer et se connaître. Tu me crois donc enfant en vérité, et ce serait une minauderie de ma part de ne pas t'avouer qu'à présent je comprends fort bien. Je n'ai pas traversé les trois quarts de l'Europe avec des gens de toute espèce. Je n'ai pas vu de près les mœurs libres et sauvages des artistes vagabonds. Je n'ai pas deviné, hélas, les secrets mal cachés de ma pauvre mère, sans savoir ce que toute fille du peuple sait d'ailleurs fort bien à mon âge. Mais je ne pouvais pas me décider à croire, Anzoletto, que tu voulusses m'engager à violer un serment fait à Dieu entre les mains de ma mère mourante. Je ne tiens pas beaucoup à ce que les patriciennes, dont j'entends quelquefois les causeries, appellent leur réputation. Je suis trop peu de choses dans le monde pour attacher mon honneur au plus ou moins de chasteté qu'on voudra bien me supposer. Mais je fais consister mon honneur à garder mes promesses, de même que je fais consister le tien à savoir garder les tiennes. Je ne suis peut-être pas aussi bonne catholique que je voudrais l'être. J'ai été si peu instruite dans la religion. Je ne puis pas avoir d'aussi belles règles de conduite et d'aussi belles maximes de vertu que ces jeunes filles de la scuola, élevées dans le cloître et entretenues du matin au soir dans la science divine. Mais je pratique comme je sais et comme je peux. Je ne crois pas notre amour capable de s'entacher d'impureté pour devenir un peu plus vif avec nos années. Je ne compte pas trop les baisers que je te donne. Mais je sais que nous n'avons pas désobéi à ma mère, et que je ne veux pas lui désobéir pour satisfaire des impatiences faciles à réprimer.
« Facile ! » s'écria Anzoletto en la pressant avec emportement sur sa poitrine.
« Facile ! Je savais bien que tu étais froide !»«
Froide, tant que tu voudras !» répondit-elle en se dégageant de ses bras.
« Dieu, qui lit dans mon cœur, sait bien si je t'aime !»«
Eh bien, jette-toi donc dans son sein !» dit Anzoletto avec dépit, « car le mien n'est pas un refuge aussi assuré, et je m'enfuis pour ne pas devenir impie. »
Il courut vers la porte, croyant que Consuelo, qui n'avait jamais pu se séparer de lui au milieu d'une querelle, si légère qu'elle fût, sans chercher à le calmer, s'empresserait de le retenir. Elle fit effectivement un mouvement impétueux pour s'élancer vers lui. Puis elle s'arrêta, le vit sortir, courut aussi vers la porte, mit la main sur le loquet pour ouvrir et le rappeler. Mais, ramenée à sa résolution par une force surhumaine, elle tira le verrou sur lui. Et, vaincue par une lutte trop violente, elle tomba raide évanouie sur le plancher, où elle resta sans mouvement jusqu'au jour.
Chapitre 14. Je t'avoue que j'en suis éperdument amoureux, disait cette même nuit le comte Zuzzignani à son ami Barberigo, vers 2 heures du matin, sur le balcon de son palais, par une nuit obscure et silencieuse.
C'est me signifier que je dois me garder de le devenir, répondit le jeune et brillant Barberigo. Et je me soumets, car tes droits priment les miens. Cependant, si la Corilla réussissait à te reprendre dans ses filets, tu aurais la bonté de m'en avertir, et je pourrais alors essayer de me faire écouter.
N'y songe pas, si tu m'aimes. La Corilla n'a jamais été pour moi qu'un amusement. Je vois à ta figure que tu me railles.
Non, mais je pense que c'est un amusement un peu sérieux que celui qui nous fait faire de telles dépenses et de si grandes folies.
Prenons que je porte tant d'ardeur dans mes amusements que rien ne me coûte pour les prolonger. Mais ici, c'est plus qu'un désir, c'est, je crois, une passion. Je n'ai jamais vu de créature aussi étrangement belle que cette Consuelo. C'est comme une lampe qui pâlit de temps en temps, mais qui, au moment où elle semble prête à s'éteindre, jette une clarté si vive que les astres, comme disent nos poètes, en sont éclipsés.
Ah ! Dit Barberigo en soupirant, cette petite robe noire et cette collerette blanche, cette toilette à demi pauvre et à demi dévote, cette tête pâle, calme, sans éclat au premier regard, ces manières rondes et franches, cette étonnante absence de coquetterie, comme tout cela se transforme et se divinise lorsqu'elle s'inspire de son propre génie pour chanter. Heureux Ustignani, qui tient dans tes mains les destinées de cette ambition naissante.
Que ne suis-je assuré de ce bonheur que tu m'envies? Mais je suis tout effrayé, au contraire, de ne trouver là aucune des passions féminines que je connais, et qui sont si faciles à mettre en jeu. Conçois-tu, ami, que cette fille soit restée une énigme pour moi, après toute une journée d'examen et de surveillance? Il me semble, à sa tranquillité et à ma maladresse, que je suis déjà épris au point de ne plus voir clair.
Certes, tu es épris plus qu'il ne faudrait, puisque tu es aveugle. Moi, que l'espérance ne trouble point, je te dirai en 3 mots ce que tu ne comprends pas. Consuelo est une fleur d'innocence. Elle aime le petit Anzoletto. Elle l'aimera encore pendant quelques jours. Et si tu brusques cet attachement d'enfance, tu lui donneras des forces nouvelles. Mais si tu parais ne point t'en occuper, la comparaison qu'elle fera entre lui et toi refroidira bientôt son amour.
Mais il est beau comme Apollon, ce petit drôle. Il a une voix magnifique, il aura du succès.
Déjà, la Corilla en était folle. Ce n'est pas un rival à dédaigner auprès d'une fille qui a des yeux.
« Mais il est pauvre, et tu es riche. Inconnu, et tu es tout-puissant. reprit Barberigo. L'important serait de savoir s'il est son amant ou son ami. Dans le premier cas, le désabusement arrivera plus vite que Consuelo. Dans le second, il y aura entre eux une lutte, une incertitude qui prolongeront tes angoisses.
Il me faudrait donc désirer ce que je crains horriblement, ce qui me bouleverse de rage rien que d'y songer. Toi, qu'en penses-tu?
Je crois qu'ils ne sont point amants.
Mais c'est impossible. L'enfant est libertin, audacieux, bouillant. Et puis, les mœurs de ces gens-là.
Consuelo est un prodige en toutes choses. Tu n'es pas bien expérimenté encore, malgré tous tes succès auprès des femmes, cher Giustiniani. Si tu ne vois pas dans tous les mouvements, dans toutes les paroles, dans tous les regards de cette fille, qu'elle est aussi pure que le cristal au sein du rocher.
Tu me transportes de joie.
Prends garde, c'est une folie, un préjugé. Si tu aimes Consuelo, il faut la marier demain, afin que dans 8 jours son maître lui ait fait sentir le poids d'une chaîne, les tourments de la jalousie, l'ennui d'un surveillant fâcheux, injuste et infidèle. Car le bel Anzoletto sera tout cela. Je l'ai assez observé hier entre la Consuelo et la Clorinda, pour être à même de lui prophétiser ses torts et ses malheurs. Suis mon conseil, ami, et tu m'en remercieras bientôt. Le lien du mariage est facile à détendre entre gens de cette condition. Et tu sais que, chez ces femmes-là, l'amour est une fantaisie ardente qui ne s'exalte qu'avec les obstacles.
Tu me désespères, répondit le comte. Et pourtant, je sens que tu as raison.
Malheureusement pour les projets du comte Giustiniani, ce dialogue avait un auditeur sur lequel on ne comptait point et qui n'en perdait pas une syllabe. Après avoir quitté Consuelo, Anzoletto, repris de jalousie, était revenu rôder autour du palais de son protecteur pour s'assurer qu'il ne machinait pas un de ces enlèvements si fort à la mode en ce temps-là et dont l'impunité était à peu près garantie aux patriciens. Il ne put en entendre davantage, car la lune, qui commençait à monter obliquement au-dessus des combles du palais, vint dessiner de plus en plus nette son ombre sur le pavé, et les deux seigneurs, s'apercevant ainsi de la présence d'un homme sous le balcon, se retirèrent et fermèrent la croisée. Anzoletto s'esquiva, et alla rêver en liberté à ce qu'il venait d'entendre. C'en était bien assez pour qu'il sût à quoi s'en tenir, et pour qu'il fît son profit des vertueux conseils de Barberigo à son ami. Il dormit à peine 2 heures vers le matin, puis il courut à la Corte Minelli. La porte était encore fermée au verrou, mais à travers les fentes de cette barrière mal close, il put voir Consuelo, tout habillée, étendue sur son lit, endormie, avec la pâleur et l'immobilité de la mort. La fraîcheur de l'aube l'avait tirée de son évanouissement, et elle s'était jetée sur sa couche sans avoir la force de se déshabiller. Il resta quelques instants à la contempler, avec une inquiétude pleine de remords. Mais bientôt, s'impatientant et s'effrayant de ce sommeil léthargique, si contraire aux vigilantes habitudes de son ami, il élargit doucement, avec son couteau, une fente par laquelle il put passer la lame et faire glisser le verrou. Cela ne réussit pourtant pas sans quelque bruit, mais Consuelo, brisé de fatigue, n'en fut point éveillé. Il entra donc, referma la porte et vint s'agenouiller à son chevet, où il resta jusqu'à ce qu'elle ouvrit les yeux. En le trouvant là, le premier mouvement de Consuelo fut un cri de joie. Mais, retirant aussitôt ses bras qu'elle lui avait jetés au cou, elle se recula avec un mouvement d'effroi.
« Tu me crains donc à présent, et au lieu de m'embrasser, tu veux me fuir ?»
lui dit-il avec douleur.
« Ah, que je suis cruellement puni de ma faute ! Pardonne-moi, Consuelo, et vois si tu dois te méfier de ton ami. Il y a une grande heure que je suis là à te regarder dormir. » Oh, pardonne-moi, ma sœur, c'est la première et la dernière fois de ta vie que tu auras eu à blâmer et à repousser ton frère.
Jamais plus je n'offenserai la sainteté de notre amour par des emportements coupables. Quitte-moi, chasse-moi si je manque à mon serment. Tiens, ici, sur ta couche virginale, sur le lit de mort de ta pauvre mère, je te jure de te respecter comme je t'ai respecté jusqu'à ce jour, et de ne pas te demander un seul baiser, si tu l'exiges, tant que le prêtre ne nous aura pas bénis. Es-tu contente de moi, chère et sainte Consuelo ? Consuelo ne répondit qu'en pressant la tête blonde du Vénitien sur son cœur et en l'arrosant de larmes. Cette effusion la soulagea, et bientôt après, retombant sur son dur petit oreiller, « Je t'avoue, lui dit-elle, que je suis anéantie, car je n'ai pu fermer l'œil de toute la nuit, nous nous étions si mal quittés. « Dors, Consuelo, dors, mon cher ange !» répondit Anzoletto. « Souviens-toi de cette nuit où tu m'as permis de dormir sur ton lit pendant que tu priais et que tu travaillais à cette petite table. C'est à mon tour de garder et de protéger ton repos. Dors encore, mon enfant. Je vais feuilleter ta musique et la lire tout bas pendant que tu sommeilleras une heure ou deux. Personne ne s'occupera de nous. Si on s'en occupe aujourd'hui, avant le soir. Dors donc, et prouve-moi par cette confiance que tu me pardonnes et que tu crois en moi. » Consuelo lui répondit par un sourire de béatitude. Il l'embrassa au front et s'installa devant la petite table, tandis qu'elle goûtait un sommeil bienfaisant entremêlé des plus doux songes. Anzoletto avait vécu trop longtemps dans un état de calme et d'innocence auprès de cette jeune fille pour qu'il lui fût bien difficile, après un seul jour d'agitation, de reprendre son rôle accoutumé. C'était, pour ainsi dire, l'état normal de son âme que cette affection fraternelle. D'ailleurs, ce qu'il avait entendu la nuit précédente, sous le balcon de Giustiniani, était de nature à fortifier ses résolutions. « Merci, mes beaux seigneurs, se disait-il en lui-même. Vous m'avez donné des leçons de morale à votre usage, dont le petit drôle saura profiter ni plus ni moins qu'un roué de votre classe. Puisque la possession refroidit l'amour, puisque les droits du mariage amènent la satiété et le dégoût, nous saurons conserver pure cette flamme que vous croyez si facile à éteindre. Nous saurons nous abstenir et de la jalousie, et de l'infidélité, et même des joies de l'amour. Illustre et profond Barberigo, vos prophéties portent conseil, et il fait bon d'aller à votre école. » En songeant ainsi, Anzoletto, vaincu à son tour par la fatigue d'une nuit presque blanche, s'assoupit de son côté, la tête dans ses mains et les coudes sur la table. Mais son sommeil fut léger, et le soleil commençant à baisser, il se leva pour regarder si Consuelo dormait encore. Les feux du couchant, pénétrant par la fenêtre, empourpraient d'un superbe reflet le vieux lit et la belle dormeuse. Elle s'était fait, de sa mantille de mousseline blanche, un rideau attaché au pied du crucifix de filigrane qui était cloué au-dessus de sa tête. Ce voile léger retombait avec grâce sur son corps souple et admirable de proportion. Et dans cette demi-teinte rose, affaissée comme une fleur aux approches du soir, les épaules inondées de ses beaux cheveux sombres sur sa peau blanche et mate, les mains jointes sur sa poitrine comme une sainte de marbre blanc sur son tombeau, elle était si chaste et si divine qu'Anzoletto s'écria dans son cœur « Ah, comte Giustiniani, que ne peux-tu la voir en cet instant ?» Et moi auprès d'elle, gardien jaloux et prudent d'un trésor que tu convoiteras en vain. » Au même instant, un faible bruit se fit entendre au dehors. Anzoletto reconnut le clapotement de l'eau au pied de la masure où était située la chambre de Consuelo. Bien rarement, les gondoles abordaient à cette pauvre Corteminelli. D'ailleurs, un démon tenait en éveil les facultés divinatoires d'Anzoletto. Il grimpa sur une chaise et atteignit à une petite lucarne percée près du plafond sur la face de la maison que baignait le canaletto. il vit distinctement le comte Giustiniani sortir de sa barque et interroger les enfants demi-nus qui jouaient sur la rive. Il fut incertain s'il éveillerait son ami ou s'il tiendrait la porte fermée. Mais, pendant 10 minutes que le comte perdit à demander et à chercher la mansarde de Consuelo, il eut le temps de se faire un sang-froid diabolique et d'aller entr'ouvrir la porte, afin qu'on pût entrer sans obstacle et sans bruit. Puis il se remit devant la petite table, prit une plume et feignit d'écrire des notes. Son cœur battait violemment, mais sa figure était calme et impénétrable. Le comte entra en effet sur la pointe du pied, se faisant un plaisir curieux de surprendre sa protégée, et se réjouissant de ses apparences de misère qu'il jugeait être les meilleures conditions possibles pour favoriser son plan de corruption. Il apportait l'engagement de Consuelo déjà signé de lui, et ne pensait point qu'avec un tel passeport, il dût essuyer un accueil trop farouche. Mais au premier aspect de ce sanctuaire étrange, où une adorable fille dormait du sommeil des anges, sous l'œil de son amant respectueux ou satisfait, le pauvre Giustiniani perdit contenance, s'embarrassa dans son manteau qu'il portait drapé sur l'épaule d'un air conquérant, et fit 3 pas tout de travers entre le lit et la table sans savoir à qui s'adresser. Anzoletto était vengé de la scène de la veille à l'entrée de la gondole. « Monseigneur et maître, s'écria-t-il en se levant enfin comme surpris par une visite inattendue, « je vais éveiller ma fiancée. »« Non, lui répondit le comte, déjà remis de son trouble et affectant de lui tourner le dos pour regarder Consuelo à son aise. « Je suis trop heureux de la voir ainsi, je te défends de l'éveiller. » « Oui, oui, regarde-la bien, » pensait Anzoletto. « C'est tout ce que je demandais. » Consuelo ne s'éveilla point, et le comte, baissant la voix, se composant une figure gracieuse et sereine, exprima son admiration sans contrainte. « Tu avais raison, Zotto, » dit-il d'un air aisé. « Consuelo est la première chanteuse de l'Italie. Et j'avais tort de douter qu'elle fût la plus belle femme de l'univers. Votre seigneurie la croyait affreuse, cependant, dit Anzoletto avec malice. Tu m'as sans doute accusé auprès d'elle de toutes mes grossièretés, mais je me réserve de me les faire pardonner par une amende honorable si complète que tu ne pourras plus me nuire en lui rappelant mes torts. Vous nuire, mon cher seigneur? Ah, comment le pourrais-je? Quand même j'en aurais la pensée. » Consuelo s'agita un peu. « Laissons-la s'éveiller sans trop de surprise, » dit le comte, « et débarrasse-moi cette table pour que je puisse y poser et y relire l'acte de son engagement. » « Tiens, » ajouta-t-il lorsqu'Anzoletto eut obéi à son ordre, « tu peux jeter les yeux sur ce papier en attendant qu'elle ouvre les siens. » « Un engagement avant l'épreuve des débuts? Mais c'est magnifique, ô mon noble patron! Et le début tout de suite, avant que l'engagement de la corrille soit expiré? Ceci ne m'embarrasse point. Il y a un dédit de 1000 séquins avec la corrille. Nous la paierons, la belle affaire. » Mais si la corrille suscite des cabales? Nous la ferons mettre au plomb si elle cabale. Vive Dieu! Rien ne gêne votre seigneurie. Oui, Zotto, répondit le comte d'un ton raide. Nous sommes comme cela. Ce que nous le voulons, envers et contre tous. Et les conditions de l'engagement sont les mêmes que pour la corrille? Pour une débutante sans nom, sans gloire, les mêmes conditions que pour une cantatrice illustre, adorée du public? La nouvelle cantatrice le sera davantage, et si les conditions de l'ancienne ne la satisfont pas, elle n'aura qu'un mot à dire pour qu'on double ses appointements. Tout dépend d'elle, ajouta-t-il en élevant un peu la voix, car il s'aperçut que la Consuelo s'éveillait. Son sort est dans ses mains. Consuelo avait entendu tout ceci dans un demi-sommeil. Quand elle se fut frotté les yeux et assurée que ce n'était point un rêve, elle se glissa dans sa ruelle sans trop songer à l'étrangeté de sa situation. releva sa chevelure, sans trop s'inquiéter de son désordre, s'enveloppa de sa mantille et vint avec une confiance ingénue se mêler à la conversation. « Seigneur comte, dit-elle, c'est trop de bonté, mais je n'aurai pas l'impertinence d'en profiter. Je ne veux pas signer cet engagement avant d'avoir essayé mes forces devant le public. Ce ne serait point délicat de ma part. Je peux déplaire, je peux faire fiasco, être sifflé. Que je sois enroué, troublé ou bien laide ce jour-là, votre parole serait engagée, vous seriez trop fier pour la reprendre, et moi trop fier pour en abuser. » « Laide ce jour-là, Consuelo !» s'écria le comte en la regardant avec des yeux enflammés. « Laide, vous ? Tenez, regardez-vous comme vous voilà » ajouta-t-il en la prenant par la main et en la conduisant devant son miroir. « Si vous êtes adorable dans ce costume, que serez-vous donc, couverte de pierreries et rayonnante de l'éclat du triomphe ?» L'impertinence du comte faisait presque grincer les dents à Anzoletto. Mais l'indifférence enjouée avec laquelle Consuelo recevait ses fadeurs le calma aussitôt. « Monseigneur, dit-elle en repoussant le morceau de glace qu'il approchait de son visage, « prenez garde de casser le reste de mon miroir, je n'en ai jamais eu d'autre, et j'y tiens parce qu'il ne m'a jamais abusé. Laide ou belle, je refuse vos prodigalités. Et puis, je dois vous dire franchement que je ne débuterai pas et que je ne m'engagerai pas si mon fiancé que voilà n'est engagé aussi, car je ne veux ni d'un autre théâtre ni d'un autre public que le sien. Nous ne pouvons pas nous séparer puisque nous devons nous marier. » Cette brusque déclaration étourdit un peu le comte, mais il fut bientôt remis. « Vous avez raison, Consuelo, répondit-il. Aussi, mon intention n'est-elle pas de jamais vous séparer. Zotto débutera en même temps que vous. Seulement, nous ne pouvons pas nous dissimuler que son talent, bien que remarquable, est encore inférieur au vôtre. » « Je ne crois point cela, monseigneur, répliqua vivement Consuelo en rougissant, comme si elle eût reçu une offense personnelle. « Je sais qu'il est votre élève, beaucoup plus que celui du professeur que je lui ai donné. » répondit le comte en souriant. « Ne vous en défendez pas, belle Consuelo. En apprenant votre intimité, le porpora s'est écrié « Je ne m'étonne plus de certaines qualités qu'il possède et que je ne pouvais pas concilier avec tant de défauts. » « Grand merci au signor professeur, » dit Anzoletto en riant du bout des lèvres. « Il en reviendra, » dit Consuelo gaiement. « Le public, d'ailleurs, lui donnera un démenti à ce bon et cher maître. »« Le bon et cher maître est le premier juge et le premier connaisseur de la terre en fait de chant, » répliqua le comte. « Anzoletto profitera encore de vos leçons, et il fera bien. Mais je répète que nous ne pouvons fixer les bases de son engagement avant d'avoir apprécié le sentiment du public à son égard. Qu'il débute donc. » Et nous verrons à le satisfaire suivant la justice et notre bienveillance sur laquelle il doit compter. Qu'il débute donc, et moi aussi, reprit Consuelo. Nous sommes aux ordres de monsieur le comte. Mais pas de contrat, pas de signature avant l'épreuve, j'y suis déterminée. Vous n'êtes pas satisfaite des conditions que je vous propose, Consuelo? Eh bien, dictez-les vous-même. Tenez, voici la plume. « Rayez, ajoutez, ma signature est au bas. » Consuelo prit la plume, Anzoletto pâlit, et le comte, qui l'observait, mordit de plaisir le bout de son rabat de dentelle qu'il tortillait entre ses doigts. Consuelo fit une grande X sur le contrat et écrivit sur ce qui restait de blanc au-dessus de la signature du comte. Anzoletto et Consuelo s'engageront conjointement aux conditions qu'il plaira à monsieur le comte Giustiniani de leur imposer après leur début, qui auront lieu le mois prochain au théâtre de San Samuel. Elle signa rapidement et passa ensuite la plume à son amant. « Signe sans regarder, lui dit-elle. Tu ne peux faire moins pour prouver ta gratitude et ta confiance à ton bienfaiteur. » Anzoletto avait lu d'un clin d'œil avant de signer. Lecture et signature furent l'affaire d'une demi-minute. Le comte lut par-dessus son épaule. « Consuelo, dit-il, vous êtes une étrange fille, une admirable créature, en vérité. Venez dîner tous les deux avec moi, » dit-il en déchirant le contrat et en offrant sa main à Consuelo, qui accepta, mais en le priant d'aller l'attendre avec Anzoletto dans sa gondole, tandis qu'elle ferait un peu de toilette. « Décidément, se dit-elle dès qu'elle fut seule, j'aurai le moyen d'acheter une robe de noces. » Elle mit sa robe d'indienne, rajusta ses cheveux et bondit dans l'escalier en chantant à pleine voix une phrase éclatante de force et de fraîcheur. Le comte, par excès de courtoisie, avait voulu l'attendre avec Anzoletto sur l'escalier. Elle le croyait plus loin et tomba presque dans ses bras. Mais, s'en dégageant avec prestesse, elle prit sa main et la porta à ses lèvres, à la manière du pays, avec le respect d'une inférieure qui ne veut point escalader les distances. Puis, se retournant, elle se jeta au cou de son fiancé et alla, toute joyeuse et toute folâtre, sauter dans la gondole, sans attendre l'escorte cérémonieuse du protecteur, un peu mortifiée.